pour tenter de réduire aux dimensions de temps qui me sont imposées le sujet qui est à notre ordre du jour, je vais me limiter strictement à l'ordre monétaire international, bien que la division entre ordre d'une économie dans son ensemble et ordre international soit très artificielle. L'ordre monétaire international comporte deux aspects, équilibre de la balance des paiements et établissement de courants d'échange donnant à l'économie sa productivité maximum. Que l'équilibre de la balance des paiements soit une condition d'ordre, aucun de ceux qui ont connu les difficultés qui résultent de l'épuisement des réserves de devises ne peut, hélas, en douter. L'épuisement des réserves de devises ne laisse plus d'option pour contingentement des échanges internationaux avec tout ce qu'il implique ou des ordres caractérisés. Théoriquement, il est deux moyens d'établir l'équilibre des balances des paiements, soit une planification totale, soit le jeu des mécanismes monétaires. Mais j'ai dit théoriquement, car il ne semble pas qu'en fait, le docteur Chartres n'ait jamais réussi à établir l'équilibre de sa balance des paiements, et nous devons à Staline lui-même une maxime qui devrait être inscrite en lettres d'or au fronton de la société du Mont Pèlerin, car il a parlé dans un discours du contrôle de l'économie par le rouble, ce qui est manifestement un appel aux disciplines monétaires. Quoi qu'il en soit, je pense que nous serons tous d'accord pour reconnaître que mécanismes monétaires, si mécanismes monétaires il y a, sont en matière de balance de paiement déclenchés par les transferts de pouvoir d'achat auxquels donne lieu le règlement des soldes des balances des paiements. Comment ces transferts de pouvoir d'achat déclenchent-ils les mécanismes monétaires? Sur ce point, je dois vous dire ma conviction que c'est une des lacunes profondes de la pensée libérale que l'élaboration d'une théorie strictement vérifiée des phénomènes monétaires, de la monnaie. J'ai essayé moi-même dans deux articles antérieurs, l'un de 1953, l'autre de 1957, d'exposer mes vues à cet égard. Je dois reconnaître que j'ai complètement échoué et que je n'ai pas réussi à les faire partager par nos collègues économistes. J'espère reprendre un jour un exposé d'ensemble de ces mécanismes, mais ce dont les théories monétaires usuelles ne rendent pas compte, c'est le fonctionnement même des phénomènes auxquels donne lieu tout déficit de balance de paiement qui se traduisent d'abord par l'épuisement des réserves de devises, ensuite par la résorption, si je puis dire, des contreparties monétaires sous forme de créances commerciales, et ensuite alors par des phénomènes de prix qui tendent à rétablir l'équilibre de la balance des paiements. Il y a là des mécanismes complexes et leur étude s'impose manifestement pour l'exposé d'une théorie rigoureuse des mécanismes de balance de paiement. Quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord sur le fait que ces phénomènes de régulation sont déclenchés par les transferts de pouvoir d'achat auxquels donnent lieu les déséquilibres de balance de paiement. Et si je me suis attaqué récemment au mécanisme du Gold Exchange Standard, c'est parce qu'il a pour effet et pour objet de supprimer les transferts de pouvoir d'achat auxquels donnent lieu les déficits balance de paiement. Il fait disparaître donc dans l'œuf, en quelque sorte, le mécanisme régulateur qui serait susceptible de rétablir l'équilibre de balance de paiement. Qu'est-ce que c'est que le Gold Exchange Standard? C'est un mécanisme qui permet aux banques d'émission de garder dans leurs actifs non seulement de l'or et des créances libellées en monnaie nationale, mais aussi des créances en devises étrangères. La conséquence, c'est que par exemple, lorsqu'il y a un déficit dans la balance des paiements des États-Unis, le règlement donne lieu à transfert de pouvoir d'achat des États-Unis vers le pays créancier, disons par exemple la France. Les États-Unis perdent du pouvoir d'achat, la France gagne du pouvoir d'achat, mais ce pouvoir d'achat qui donne lieu à création de monnaie en France est immédiatement replacé aux États-Unis sous forme de devise, ce qui vient annuler la contraction de pouvoir d'achat qui résultait du déficit balance des paiements. Autrement dit, Il y a gain de pouvoir d'achat en France, il n'y a pas perte de pouvoir d'achat aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, la contraction de pouvoir d'achat est purement et simplement annulée. Tout se passe comme s'il n'y avait pas de déficit. Eh bien, ce système a trois conséquences. Il fait disparaître à l'intérieur du pays débiteur tout mécanisme qui serait de nature à limiter le déficit. Il lui permet d'exister indéfiniment. Il crée une situation analogue à celle qui existerait s'il n'y avait pas de déficit. Dans le pays créancier, au contraire, comme en mécanisme du talon or, il crée expansion de pouvoir d'achat. La conséquence, c'est une expansion globale de pouvoir d'achat dans la collectivité des pays soumis au régime du Gold Exchange Standard. Et nous arrivons ainsi alors aux trois conséquences essentielles, et je vais en avoir terminé, du mécanisme du Gold Exchange Standard. Primo, suppression du mécanisme régulateur à l'intérieur du pays débiteur. Deuxièmement, duplication de pouvoir d'achat résultant de tout déficit dans un pays de la collectivité des pays à Gold Exchange Standard. Et par suite, création d'un mécanisme d'expansion de crédit purement fortuite et sans lien aucun avec les besoins de l'économie, je m'explique. En 1927-28, et déjà d'ailleurs en 1925, il y a eu de grands mouvements de capitaux de l'Angleterre et des États-Unis vers l'Europe continentale. La conséquence, ça a été une énorme expansion de pouvoir d'achat en Europe continentale qui a provoqué l'ampleur exceptionnelle du grand boom des années 27-28-29. Mais cette expansion de pouvoir d'achat étant fondée sur une seule et même base métallique, il a suffi d'un incident comme les difficultés de la Crédit Anstalt en 1931 pour provoquer l'effondrement de ce château de cartes construit sur une même base métallique par duplication de pouvoir d'achat, et ça a été la Grande Dépression avec toutes les conséquences que vous savez. Autrement, le Gold Exchange Standard a trois conséquences. Suppression du mécanisme régulateur à l'intérieur du pays débiteur. Duplication de pouvoir d'achat en fonction de considérations purement fortuites et accidentelles et risque d'effondrement qui résulte de la structure anormale, insolite, de la pyramide de crédit construite sur une même base métallique. C'est pour ces raisons que j'ai cru devoir dénoncer les dangers qui résultent de la diffusion du fonctionnement du mécanisme de l'étalon de change or du Gold Exchange Standard dans le monde, qui me paraît recéler des dangers extrêmement graves et qui est très certainement responsable de l'expansion de crédit qui s'est traduit non pas par une hausse de prix, mais par une hausse absolument anormale des cours des actions sur les marchés financiers, qui conduit à des taux de rendement qui sont pour les actions extrêmement élevés, et qui crée une situation qui manifestement ne peut pas se développer indéfiniment. Quand des actions rapportent 1% et des obligations 5%, il est manifeste qu'on est près du terme du processus et qu'on est exposé à un renversement extrêmement dangereux pour l'ordre, et pas seulement monétaire, dans la collectivité des pays à étalons de change or. Voilà, messieurs, l'essentiel des vues que je voulais vous soumettre. Je ne sais pas si j'ai atteint les 10 minutes, mais... Je vais maintenant, alors, en espérant que la langue anglaise est plus concise et plus parfaite que la langue française, surtout lorsqu'elle est exprimée par quelqu'un qui la connaît aussi mal que moi. Mais il est vrai que cette méconnaissance de la langue anglaise me permettra d'écarter le très peu de nuances que j'ai pu introduire dans l'exposé français, donc de simplifier encore davantage les modestes vues que je vous ai soumises. Well, it's always difficult to express in a foreign language ideas which are rather complicated, but it's even more difficult to reduce by half the length of this this explanation. What I said is that I will limit myself very artificially to international economic to international monetary order. International monetary order has two aspects. First, equilibrium of the balance of payment, and secondly, currents of trade, which gives this greater productivity to production. Theoretically, there is two solutions to establish the equilibrium of the balance of payment. One is full planification, is monetary regulation. Regulation, no, that's not a word. Monetary discipline. Well, I said theoretically, because I've never seen, in fact, any planification succeeding to establish the equilibrium of the balance of payment. Even Dr. Sharp, with all his power, has not succeeded. And Stalin has said in one of his speeches that he must use the control of economy by the ruble, through the ruble, which is, I said, a maxim which ought to be written in golden letters on the door of the Mont Pèlerin Society. Not control with the ruble, but control with the money. This being so, I said that the great deficiency of liberal thought is in the field of monetary theory. There is no doubt that the classical theory do not account for the complication of monetary phenomena. I've tried myself to explain my view in this field in two articles, in 1953 and 1957. I must recognize that I have not succeeded to convince my fellow economists. I will try again if I have time, I mean time in my life, to expose it again. But there is a point on which everybody agrees, is that the monetary discipline takes its root, its origin, in the transfer of purchasing power, which are the result of the balance of payment. Well, if I have recently thought necessary to raise the question of the gold exchange standard, it is because it has the effect, and even the aim, to suppress the transfer of purchasing power, which is the result of a deficit in the balance of payment. Let us take, for example, the case when there is a deficit in the balance of payment of the United States. Well, the United States transfer purchasing power, let us say, for example, in France, to settle the deficit of balance of payment. This purchasing power leaves the United States when it is transferred in foreign exchange or in gold. It enters France, in which it expands the credit superstructure, but as the foreign exchange, as the amount received is not asked in gold, but kept in foreign exchange, it is immediately returned by the receiving country to the country which has lost it, namely in my example, United States, and therefore cancel the contraction of purchasing power, which has been the result of the settlement of the deficit. Therefore, the essence of the gold exchange standard is that it suppresses in the country which has a deficit the contraction of credit, which could be the base of the mechanism, monetary mechanism. And therefore, it suppresses in this country all the reaction which tends to limit and correct this deficit. The gold exchange standard, therefore, has for me three consequences. A, suppression in the country which has a deficit of the effect of this deficit, and therefore creation of conditions which permits the maintenance indefinitely of this deficit. B, creation in the country which receives the amount of the balance of purchasing power with no loss in the country which is in deficit. Therefore, a net increase of global purchasing power in the collectivity of countries which are submitted to the gold exchange standard. That means whenever there is a deficit in a country in a regime in gold exchange standard, it is enough for expansion of credit. And this expansion of credit has no link whatever with the need of economy of what is called expansion. It's purely fortuitous. When, for instance, we have had that in 1927, 29, 28, there has been immense return of capital from the United States and the United Kingdom to continental Europe. They have created this expansion of credit, which has been the root, which has created the exceptional character of the boom of the 1927-29. We have had exactly the same thing in 1958-59. There has been because they have for reasons which you know, this movement of capital to have Germany and to have France of capital, the result has been an immense increase of purchasing power in the collectivity of countries submit to the so-called gold standard, which is the gold exchange standard, and the result has been this great increase of price on the stock market, which has created this very abnormal condition of very slow yields on the stocks and high yields on the bonds, which is a situation which naturally cannot continue indefinitely. And that is the third point. This development always increases the amount of claim on the same amount of gold and creates a situation which cannot be developed indefinitely, which comes necessary to an end. When will it be? Some incident will come. I remind of the credit anstalt in 1931, and in one night all this double structure of credit, this double pyramid of credit has collapsed, which has given the explanation for the exceptional character of the depression of the 30s. Let me end by one word which I have not said in France, which makes it French, which makes it possible therefore to have a duplication of time with the translation. I'm always very much astonished in this period in which we devote so much of scientific research to the atom and to various phenomena in the air and anywhere, that we have so much, so less, we don't devote more attention to the analysis of the phenomenon which have created the Great Depression in the 30s, in other words, which have given to a depression this abnormal character which has transformed it in a great depression. That is one of the main problems which we have to face, and if we were serious people,